Voilà, j'aimerais juste prier avant. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Vous m'entendez bien? Parfait. Voilà, Seigneur, je te prie maintenant par ton Saint-Esprit de nous parler, de nous interpeller. Et Seigneur, si jamais tu veux nous reprendre l'un ou l'autre, mais Seigneur, c'est toujours pour nous encourager, c'est toujours sans jugement, c'est toujours vraiment avec amour, avec bonté, parce que tu nous aimes. Alors Seigneur, nous accueillons la parole d'encouragement que tu veux nous donner, même si elle doit nous reprendre. Merci pour la parole d'encouragement. Tu nous aimes et tu veux nous amener plus loin, chacun et chacune. Et tu veux que tous les verrous soient fermés pour que l'ennemi n'ait aucune prise, n'ait pas la mainmise sur nos vies. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, alors je vais demander à Didier, qui est un peu qui a les coudées franches, là, de mettre la première image. La première image qui va illustrer, voilà. Est-ce que vous la voyez?
Oui.
Voilà, très bien. Alors, vous voyez une ligne, ce qu'on appelle une ligne de crête. C'est assez impressionnant parce que on pourrait pas dire un chemin de crête parce qu'on voit vraiment pas le chemin, c'est pas évident. C'est une ligne. C'est très étroit. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà fait des randonnées où j'ai vu des lignes de crête devant moi. Je vous assure que ça fait peur un peu. Voilà, les versants sont très abrupts de chaque côté. Et alors, c'est pendant le confinement. Pendant le confinement, le Saint-Esprit m'a parlé sur le thème de la ligne de crête. Et pourquoi? Parce que j'avais entendu ça, cette expression, dans un discours du Premier ministre qui vient de démissionner, Édouard Philippe, à la télévision, lorsqu'il a voulu préparer les Français à l'étape du déconfinement. Il disait, il parlait d'une ligne de crête. Et la ligne de crête dont il parlait, c'était cet objectif très difficile à atteindre, à la fois d'éviter un regain de malades en réanimation, donc en quelque sorte une seconde vague dans l'épidémie, et d'autre part d'éviter aussi l'écroulement de l'économie. Et on est comme sur une ligne de crête. Et le Saint-Esprit m'a parlé à travers cette expression. Et le Saint-Esprit m'a dit que notre marche chrétienne est parfois comme un chemin très étroit, sur une crête. Hein, Jésus n'a-t-il pas dit « étroit » est le chemin qui mène à la vie, hein. De chaque côté, donc, c'est une pente assez vertigineuse, hein, qui peut nous faire chuter. Et le Seigneur m'a montré cette image de la ligne de crête en rapport avec une parole des Écritures. Et elle se trouve dans le psaume 36, verset 12. Alors, si Didier, tu peux mettre la deuxième image, on va voir apparaître. Voilà. Voilà, très bien, magnifique, la technique au poil. Voilà, et voilà cette parole, c'est que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Alors, le pied, c'est notre pied à nous, et dans cette ligne de crête, si on met le pied au mauvais endroit, on peut glisser très facilement. Et c'est notre pied à nous, hein. C'est bien nous qui vont faire attention où nous posons les pieds. Mais la main du méchant, c'est une main extérieure. Là, c'est l'extérieur. C'est une main extérieure qui peut nous pousser, nous déséquilibrer sur cette ligne de crête. Alors, ce texte, je l'avais reçu en août 96, il y a 24 ans, à la fin d'une semaine très éprouvante au travail, où j'avais été amené, ce qui ne m'était jamais arrivé jusque-là, j'étais amené à résister à une décision de mon patron, ça ne m'était jamais arrivé. Et ce texte me donnait clairement une ligne de conduite à adopter. Bon, j'ai certainement pas été parfait dans ma conduite, j'ai appris, c'était une formation incroyable à ce moment-là. Et donc ce verset nous indique deux écueils à éviter dans notre marche chrétienne. D'une part, d'un côté, l'orgueil, on pourrait rajouter l'arrogance, se manifestant par parfois un irrespect des personnes, voire un mépris. On peut aussi parler d'autosuffisance. Et de l'autre, la crainte, la peur suite à l'intimidation qui me pousse vers la fuite ou plus précisément vers l'absence d'un positionnement ferme. Alors voilà que 26 ans après, au milieu du confinement, je reçois à nouveau cette parole, mais qui me semble pas être pour moi seulement. Et tout de suite, j'ai senti que, comme une injonction, le Seigneur me disait, voilà, il faut partager ça au corps du Christ. Le corps du Christ a besoin d'entendre cela. Et le Seigneur m'a montré que nous pouvons être comme sur une ligne de crête, particulièrement dans notre rapport aux autorités. Aux autorités qui sont sur nous, et je pense particulièrement aux autorités qui gouvernent notre pays. Et sur cette ligne de crête, on peut discerner clairement ces deux écueils qui peuvent nous faire chuter. Didier, tu peux peut-être là arrêter l'image, on va y revenir après. Hein. On va y revenir après, je te fais signe, hein, d'accord? Voilà, je pense aux autorités qui nous gouvernent sur notre pays. D'accord? Alors, deux attitudes. Il y a deux attitudes qui ne sont pas en accord avec les Écritures et auxquelles il nous faut veiller. Il nous faut veiller parce que ces attitudes, elles baignent autour de nous. On est rempli de ces choses autour de nous. Hein. Et ça peut constituer donc une brèche pour l'œuvre de l'ennemi de nos âmes. Hein, toute désobéissance constitue toujours une opportunité pour que l'ennemi s'immisce dans notre vie et freine aussi l'action de l'Esprit de Dieu. Alors d'un côté, donc l'orgueil, l'arrogance, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et il me semble, si on est attentif, que pendant ce confinement, l'Esprit de Dieu avertit son Église. Hein, pour moi, c'est clair. Et je pense notamment au témoignage du pasteur de l'Église de Mulhouse, qui était vivement attaqué, hein, et qui a passé vraiment par l'épreuve, Samuel Peter Schmidt. Vous savez, si vous regardez son témoignage, si vous écoutez la vidéo, vous l'avez écouté, je pense, plusieurs, hein, à la sortie de l'hôpital, alors qu'il avait été atteint par le coronavirus, vous savez combien de personnes ont visionné ce témoignage? Avant-hier, il y avait 212 000 personnes qui ont visionné son témoignage. 212 000 personnes. Et il me semble que dans ce qu'il a dit, il y avait comme une voix prophétique. Je crois qu'il nous invitait à beaucoup d'humilité. Et je pense que cet orgueil pour lequel nous devons être mis en garde, c'est cet orgueil pouvant nous conduire dans le mépris des autorités. Une condamnation, par exemple, systématique, ça va plus loin que la critique. L'esprit critique, il faut le garder, nous avons besoin. Mais quand il s'agit d'une condamnation systématique et d'un mépris des autorités, nous sommes là peut-être sur une ligne rouge. Et on peut tomber dans ce travers en tant qu'enfant de Dieu. Peut se faire que nous parlons davantage de nos autorités, et en plus, si nous en parlons négativement, que nous prions pour nos autorités. Alors que l'Écriture nous invite très clairement à une tâche prioritaire, c'est celle de prier pour nos autorités. Quand la dernière fois avons-nous prié pour nos autorités? Quand est-ce que c'est la dernière fois? Et pendant ce confinement, moi, pratiquement tous les jours, le Saint-Esprit me poussait à prier pour les autorités. Alors, Didier, tu peux mettre la troisième image, qui est ce verset bien connu, hein, qui nous rappelle la troisième image, ce verset de Timothée. Voilà, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Voilà, tu peux revenir, tu peux enlever l'image, Didier. Ouais. Voilà, il est tellement facile de relever les failles, les manques, les maladresses, et ces failles, bien sûr, elles existent. Les maladresses aussi. Il peut y avoir même des erreurs grossières. Ce qui est plus grave, des manipulations. C'est tellement dans les gènes humains. Ne sommes-nous-mêmes pas parfois un peu manipulateurs? Quelquefois, hein? Quelquefois, le sommes-nous pas? Alors là, devant ça, nous avons une responsabilité, et j'y reviendrai dans le deuxième écueil. Mais il est important de comprendre que notre premier devoir envers nos autorités, c'est de prier pour eux. Et plus nous allons prier, plus nous allons prier, plus nous allons nous rendre compte que toute attitude d'irrespect ou de mépris ne peut pas coller avec notre prière. Comment parlons-nous de nos autorités? Ah, ils sont nuls. Vous savez, le Christ a dit, si tu dis à quelqu'un insensé, stupide, eh bien, tu mérites d'aller dans la géhenne. Bon, vous voyez, c'est pas seulement vis-à-vis des autorités. Notre langage ne peut pas être le même en tant que chrétien parce que nous portons le nom du Christ. Nous portons le nom du Christ. Et le Christ nous invite à aimer nos ennemis, donc à plus forte raison, il est clair que nous sommes appelés à aimer ces personnes en autorité qui ne sont pas forcément nos ennemis. Et je vous donne trois raisons, simplement, pour nous aider à aimer ceux qui sont en autorité dans notre pays. Trois raisons. La première, pensons à l'énorme pression qui est sur eux. Notamment dans cette crise sanitaire, la pression des médias, c'est terrible d'être constamment filmé et enregistré sur tout ce qu'on dit et sur. C'est terrible, terrible. La pression des médias, des groupes financiers, des partis, des syndicats, des lobbies. Deuxième raison, n'oublions pas qu'ils sont sous l'influence du prince des ténèbres, celui que les Écritures nomment le prince de ce monde. Ils n'ont pas l'esprit du Christ pour la plupart. Ils n'ont pas notre éclairage. Ça ne veut pas dire que nous avons toute la vérité, attention, hein. Mais on a un éclairage qu'ils n'ont pas. Troisième raison, pensons pour la plupart de ceux qui sont très haut placés à leur vie de famille qui est totalement sacrifiée dans ces années. Alors, nous devons marquer une différence dans notre comportement. Je crois que c'était l'appel du pasteur, je crois. Bon, pas seulement vis-à-vis des autorités, mais on doit marquer une différence dans notre attitude. Michée 6,8, on t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pensons toujours à l'attitude des hommes dans la Bible, comme Daniel, Joseph, alors qu'ils étaient sous l'autorité d'un roi et d'un gouverneur païen et idolâtre, et pas souvent juste. Je pense à Nebuchadnezzar, à Babylone, qui a laissé Daniel se faire accuser par ses ennemis. Pensons à Paul, comment il parle des autorités, comment il parle aux autorités romaines et juive, alors qu'avec lesquels il a connu pourtant la persécution. Mais toutefois, dans leur attitude exemplaire, pleine de respect, cherchant à honorer leur chef et très certainement priant pour eux, ils n'ont pas renoncé à leur identité et à leur conviction, jusqu'à prendre le risque quelquefois de s'opposer à leurs décisions. Et j'en viens à ce deuxième écueil. L'autre versant de la montagne, le premier versant, il est tellement facile de tomber là-dedans, l'irrespect, le mépris. C'est tellement présent autour de nous que nous pouvons laisser échapper aussi des pensées, des paroles de mépris. Hein. Mais l'autre versant, la crainte, la peur, pouvant nous conduire à l'absence de positionnement ferme, pouvant me conduire à m'écarter de la volonté de Dieu. Que la main du méchant ne me fasse pas fuir. C'est bien une réalité dans bien des nations autour de nous, les autorités peuvent se montrer, pas seulement les autorités, mais en tout cas, certaines autorités peuvent se montrer méchantes à l'égard des chrétiens, et d'autres aussi. Ceux-ci peuvent faire l'objet de menaces, par exemple l'interdiction de parler de Jésus, d'annoncer l'Évangile, ou encore l'obligation de certaines pratiques contraires à notre foi. Encore une fois, pas étonnant, puisque nous sommes dans un combat spirituel avec le prince de ce monde, Satan et ses anges. Donc voilà l'autre écueil, le risque d'être paralysé par la peur au point de désobéir à Dieu. Et dans les menaces, il nous faut discerner l'esprit d'intimidation qui veut nous écarter de la volonté de Dieu. Et les premiers chrétiens ont été confrontés tout de suite à cet esprit d'intimidation dans l'histoire de l'Église. Mais dans le respect de l'autorité, qu'est-ce qu'ils ont résisté alors de ne pas parler de Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Que la main du méchant ne me fasse pas fuir. Alors je traduis aussitôt cette phrase qui me paraît plus juste. Que la main du méchant ne me conduise pas à la désobéissance à Dieu. Car toute fuite n'est pas faiblesse et désobéissance. Elle est quelquefois même signe et preuve de sagesse. Joseph a fui devant la femme de Potiphar, qui voulait absolument coucher avec lui. Il n'avait pas d'autre choix là que de fuir. David a fui plusieurs fois devant Saül et même Absalom qui voulait s'en prendre à sa vie. Paul a fui dans une corbeille le long d'une muraille pour échapper à ses ennemis. Jésus lui-même a fui à certains moments quand ce n'était pas son temps face aux pharisiens qui voulaient l'arrêter, voire le lapider. Voilà donc juste une petite parenthèse. En fait, quand il est dit ne me fasse pas fuir, c'est ne me conduise pas à la désobéissance à Dieu. Alors voilà, j'en arrive presque à la fin. Le Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous avons vu que nous manquons à cette vocation quand nous sommes dans l'irrespect ou le mépris de l'autorité, quand nous ne prions pas pour ces autorités. Nous manquons à notre vocation là. Mais nous pouvons aussi manquer à notre vocation quand, sous l'intimidation des autorités, nous cédons à la peur et désobéissons à Dieu en cachant notre foi ou en cédant à des pratiques qui sont contraires à notre foi ou qui compromettent gravement notre foi. Alors, on n'est pas encore en France sous une persécution directe comme dans beaucoup de pays, mais nous devons nous y préparer. Comment ? En ne laissant pas tomber nos défenses, en exerçant donc à tout instant notre discernement, en n'étant pas non plus dans une trop grande passivité, apprenons à ne pas être sans voix face à des décisions qui portent fortement préjudice à l'éthique morale, à la justice sociale, à l'environnement. Mais exprimons-nous toujours avec respect, en suivant comme modèle ces hommes de Dieu dans la Bible. Alors j'en arrive à la conclusion. Et on va regarder de nouveau cette image, et on va rester dessus, Didier, la première image. Non, la quatrième en fait, hein, qui reprend, voilà, dans la quatrième, voilà, très bien, parfait. Regardez bien cette image, voilà, je demande vraiment maintenant que le Saint-Esprit nous parle à chacun. Que le Saint-Esprit nous parle à chacun. Soyons dans une attitude de prière en regardant cette image. Et je voudrais l'accompagner cette image cette fois par vraiment une parole d'encouragement. Là, peut-être c'était davantage exhortation, mais vraiment là, j'aimerais terminer par un encouragement puissant, par les paroles du psaume 23, à partir du verset 3. Je vais y ajouter quelques commentaires. Regardons, écoutons le Saint-Esprit, laissons-le faire son travail dans nos cœurs. Combien, chers amis, on a besoin de vigilance pour ne pas glisser sur l'un ou l'autre de ces versants. Il est si facile de mettre le pied où il ne faut pas et tomber dans l'orgueil, le mépris. Il y a tant de manifestations d'orgueil, il y a tant de rébellions autour de nous. On ne peut pas avoir le langage méprisant parce que nous portons le nom du Christ. Il est si facile aussi de prendre peur face à l'intimidation. Ah, ce chemin à prendre est vraiment étroit et demande toute notre vigilance. Mais Jésus, tu nous as prévenus. Et dans le psaume 23, tu nous dis, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce que je porte son nom. Oui, Seigneur, tu sais nous conduire quand il le faut vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles, mais tu nous conduis aussi vers les endroits escarpés. Tu nous conduis vers les endroits étroits. Le chemin de la justice, parce que nous portons ton nom. Ces chemins où je dois marcher peut-être un peu à contre-courant pour manifester ta justice dans cet amour de la vérité, loin de l'orgueil et de l'arrogance, en toute humilité, loin de la peur face à l'intimidation. Mais la bonne nouvelle, je le répète, la bonne nouvelle, c'est que tu ne me laisses pas seul dans ces endroits escarpés. Tu ne me laisses pas seul dans ce chemin étroit, tu m'accompagnes. Là même où il peut m'arriver de côtoyer la mort, là où il peut m'arriver d'être blessé, de m'écarter, d'être blessé, tu es le bon berger qui me remet sur le chemin, qui bande et soigne mes plaies. Ai-je glissé vers le versant de l'orgueil ou de l'irrespect envers les autorités? Je t'en demande pardon. Et tu viens me reprendre, rectifiant mon attitude. Ai-je glissé vers le versant de la peur, sous l'intimidation, me repliant sur moi-même? Là encore, tu viens me reprendre et m'offrir la sécurité au point que je n'ai plus peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, par ton Esprit Saint. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est le psaume que Michel, je pense, doit lire, a lu pendant toutes ces, a médité pendant cette opération. Tu m'en nourris, tu m'enseignes même dans le désert. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est la promesse de l'abondance de l'esprit dans ce chemin étroit, escarpé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, Seigneur, tu es avec moi dans ce chemin étroit. Tu es avec moi, tu m'accompagnes. Alléluia, tu accompagnes chacun de tes enfants pour les garder de mettre le pied au bon endroit, pour protéger contre le déséquilibre provoqué par l'intimidation de l'adversaire, cette main extérieure. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous demandons vraiment que dans nos vies, mais aussi en France, dans notre nation, il y ait cet esprit d'humilité, il y ait ce respect, et il y ait ce courage aussi en même temps. Ce courage pour tenir bon face à la vérité, pour être défenseur de la vérité. Louange à toi, Seigneur, donne-nous, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donne-nous d'être fidèles à cette vocation que tu nous as adressée. Dans le nom de Jésus, amen.